Gabriel Moscardo à deux pas du Paris Saint-Germain, le joueur de 18 ans qui joue actuellement au Brésil, au Corinthians, j'espère que j'écorche pas le nom du club. Qu'est-ce qu'on peut attendre du joueur? Est-ce que c'est un recrutement pour maintenant ou après? On va parler de tout ça avec nos analystes. Alors pour l'instant, ce qu'on sait sur le joueur, on va rentrer petit à petit dans le sujet. Mais on sait que la hype, elle a été très folle dès ses premiers pas au Brésil, que ça fait longtemps qu'il est suivi. C'est un joueur qui vient tout juste de débuter, il a à peine une quinzaine de matchs en pro. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a une hype sur un joueur un peu milieu défensif. C'est assez rare au Brésil, en général c'est plus les attaquants, les mecs qui marquent des buts. Et là, c'est son côté 1m85, rempli d'agressivité, qui étonne tout le monde. Et on trouve que physiquement, il est très avancé et qu'il a une lecture du jeu qui est digne d'un joueur très confirmé. On remerciera notre ami DataScout pour les stats qui nous a promis pour cette vidéo. Basto, toi, je te lance sur le sujet parce que j'ai vu que tu en as parlé sur Twitter. Tu as dit que c'était un profil qui ne correspondait pas forcément à ce qu'on cherchait.
Après, moi, je ne l'ai jamais vu jouer. Je vais être honnête, mais maintenant, par rapport à ce que les gens qui l'ont vu jouer ont dit, il y en a qui m'ont dit que son profil, c'était un peu à la Felipe Melo. Ce qui ressort, c'est qu'il est très très fort dans toutes les stats sans ballon, les tacles, les interceptions, etc. Mais que dans le jeu de passe vers l'avant, il est en dessous d'un milieu le moyen, médian du championnat brésilien, qu'il est en dessous de ce que peut faire un Ugarte. Donc on est de nouveau, alors qu'on a déjà Ugarte et Emery qui sont partis des joueurs qui jouent le moins vers l'avant en Europe. Alors ça fait peut-être aussi partie des consignes de jeu de Henrique, mais on sait aussi qu'ils ont des limites dans la création. On reprend un joueur qui a des limites dans la création. Donc on prend peut-être un pur remplaçant à Ugarte, mais est-ce qu'on est obligé de prendre quelqu'un un peu dans le même style et pas justement changer quand Ugarte est absent pour avoir une autre corde à notre arc et dans des matchs sous pression, avoir quelqu'un qui est plus créatif, qui permette de mieux ressortir le ballon? Parce qu'on a bien vu à chaque match sous pression les difficultés pour ressortir le ballon derrière nous. À voir, après la 18 ans, c'est peut-être pour l'avenir, il viendra peut-être très bon, il y avait Chelsea dessus, etc. etc. Mais c'est vrai qu'on va encore dans un profil qu'on a et qu'on aimerait, on est tous d'accord, on aimerait tous avoir un profil plus créatif. Maintenant, s'il y a les deux, tant mieux, mais voilà, c'est mes doutes dessus.
Ok, on est sur un joueur qui a fait ses preuves dans une défense un peu en, quand il doit défendre en bloc. Ah bon, on a Tonto qui nous a rejoint. Il joue actuellement dans un 4-2-3 hein, avec les Corinthians. Et il joue, c'est une équipe qui ne joue pas la possession, contrairement au Paris Saint-Germain. Donc déjà, il faudrait qu'il s'adapte à ça. Il est très loin d'être prêt. Et du coup, on va peut-être parler de la chronologie. Est-ce que c'est un joueur pour maintenant ou après? Et Dryas, je voulais te demander, quand est-ce qu'on s'occupe de maintenant?
Juste avant, quand est-ce qu'on s'occupe de maintenant? Mais d'une manière générale, on répond aux deux. Hein. La première chose, c'est que déjà, le Brésil flamboyant des années 70, 80, 90, c'est plus tout à fait ça. Et c'est un peu triste de voir que maintenant, le Brésil, le Roga Bonito, c'est devenu Casimiro. Mais au-delà de ça, pour recentrer, ce joueur semble être pile ce dont on a besoin, parce que ce qui nous fait défaut au milieu, c'est un milieu offensif et c'est de l'expérience. Et donc, on va choisir un mec de 18 ans qui est un milieu défensif. Donc, on est pile dans ce qu'il faut. Alors après, on ne va pas jouer les catastrophistes. Ce ne sera sans doute pas la seule piste. Et encore une fois, comme l'a dit Basto, et Basto l'a dit mieux que moi, c'est un joueur que je ne connais pas du tout. Je ne l'ai jamais vu jouer. Mais tous les échos, tout ce qui semble être dit, bien sûr, quoi, sur papier, tu as un besoin. Surtout si tu commences à vraiment jouer avec un Ugarte, tu as besoin d'avoir un remplaçant. Mais avant ça, il y a vraiment d'autres priorités. Donc, peut-être le prendre pendant un an et demi. Mais ce dont on a besoin à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain, c'est d'un milieu qui peut être dépositaire du jeu, qui peut être dépositaire de la transition par la passe, qui peut être dépositaire de la manière de se positionner. Et ce qui nous fait cruellement défaut, c'est d'expérience. Donc, on peut en parler de ce joueur, mais franchement, j'en ai rien à foutre et c'est vraiment pas notre besoin à l'heure actuelle. Quoi.
Ok, en attendant. On va rater Bobby Bendy. En attendant que Tonton revienne. Ah?
Que je disais, la priorité à ce poste de 6 et machin pour le présent tout de suite, c'était Zubimendi et t'avais peur. Dis-toi que c'est la priorité d'Arteta.
Et du Barça aussi également pour cet été.
Et de City et du Bayern.
Voilà, donc si Pep le veut, si Arteta le veut, tu vois, c'est qu'il est physique, contrairement à ce que tu voulais nous faire croire sur les milieux de Liga.
Oui, mais Pep, il peut faire ce qu'il veut dans le joueur. Je ne sais pas si on peut dire la même chose de Luis Enrique. Moi, je sais que c'est un joueur. On m'a dit aussi que quand il doit sortir et chasser son vis-à-vis, il se fait souvent passer. Ce n'est pas du tout son point fort. Ce n'est pas du tout un joueur comme Ugarte. Il n'a pas d'explosivité. Donc, il faudrait voir comment il s'adapte aux tâches défensives dans une équipe qui a la possession. Tonton, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est un joueur que tu vois plus pour le futur du Paris Saint-Germain ou peut-être la fin de saison, saison prochaine, quoi?
J'ai rejoint en partie Darius dans le fait où ça fait longtemps que je demande un meneur de jeu depuis le début de la saison et à l'époque on m'avait dit qu'on n'en avait clairement pas besoin. Bon, j'avais peut-être tort. Et aujourd'hui, là, quand je vois le 6 qu'on cherche à Moscaro, je t'avoue que je ne le connais pas assez. Moi, en fait, ce que je cherche, c'est un joueur qui est bon techniquement parce que justement, quand Ugarte arrive, je me rappelle, j'avais fait un thread sur Twitter, je disais que le point faible d'Ugarte, c'était de ressortir sous pression. On le voit aujourd'hui. Et si le 6 qu'on va recruter et qui est Moscaro a les mêmes défauts que Ugarte, vraiment, je comprends pas la logique, dans le sens où si tu as un 6 comme Ugarte qui est très très bon sans ballon, qui est très très bon dans la défense et qui a des problèmes à ressortir ballon au pied et sous pression, bah moi je pense que la logique, faut que tu recrutes un 6 qui réponde à ses qualités techniques. Et là, je rejoins Basto justement sur Zubimendi parce que c'est justement peut-être ce qui se rapproche le plus de ce que recherche Luis Enrique et il a une clause. Et donc je ne comprends pas spécialement le choix de Moscaro parce que je ne le connais pas assez. Mais si Moscaro répond aux
Moscardo.
exigences de Luis Enrique, comment?
Moscardo.
Ouais,
Je
Moscardo,
t'ai
pardon,
laissé une
s'il
fois,
répond.
après t'as insisté.
Ah non, mais la fatigue, t'as vu. Mais non, justement, s'il répond aux exigences techniques que veut Luis Enrique à ce poste, moi, ça ne me pose pas de problème. Si tu me dis qu'on déniche un 6 qui va devenir super technique et qui peut avoir une vraie plus-value tout de suite, je signe. Mais vu l'âge, le championnat dont il vient et le profil, je t'avoue que j'ai un peu des doutes.
Mais après, ce que je tenais à dire, c'est qu'on n'est quand même pas sur un profil qui ressemble vraiment au Garté, parce que c'est un joueur qui, balle au pied, sous pression, il est beaucoup plus fort que Ugarte. C'est pas comment il s'appelle, c'est pas Busquets, mais c'est un joueur qui, sous pression, peut tenir le ballon, contrairement au Ugarte. Il pourra le ressortir, il fera pas une passe vers l'avant, mais il trouvera quelqu'un de manière latérale. Et c'est quand même un mec qui, de manière défensive, il a énormément d'actions défensives, de ballons récupérés, d'interceptions, et surtout, ce qui nous manque cruellement, c'est qu'il a un grand pourcentage de duels aériens gagnés. Je t'écoute, Dries.
Ça va, quoi.
Alors déjà, enfin, la capacité de jouer sous pression dans le championnat brésilien, ouais, c'est bien, il saura jouer sous pression en Ligue 2, mais ça ne donne aucune garantie pour le reste. Et sinon, il y a un facteur qui est essentiel. Il y a quelque chose qui est préjudiciable dans ce milieu de terrain, c'est le déficit d'expérience. Nos joueurs qui sont d'expérience au milieu du terrain au Paris Saint-Germain, ben, c'est des joueurs qui sont là pour jouer les seconds rôles. C'est Fabian Ruiz, c'est ce genre de joueurs. Et on sait, enfin, d'une manière générale, il y a un moment où clairement ça manque d'expérience. Ça se voit sur la capacité des joueurs à répéter les efforts match après match. Ça se voit sur les matchs où tout à coup c'est des matchs qui sont couperets, alors que tu as un alien au milieu qui est Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery qui est au niveau de l'expérience, un Fiori Class. Au niveau du joueur, il y a peut-être des choses à revoir, mais au niveau de l'expérience, un Fiori Class. Mais il peut être un Fiori Class, il peut avoir l'expérience pour lui-même. C'est pas lui qui va amener la Grinta, c'est pas lui qui va pouvoir déjà recadrer les autres, soit par la voix, soit par l'exemple. Et on a un déficit d'expérience. Et si on doit recruter quelqu'un, il faut arrêter. Les petits jeunes, c'est très bien. C'est très bien, les petits jeunes. Mais maintenant, on a fait les petits jeunes, on peut encore en faire quelques-uns. Mais il nous faut aussi de l'expérience, et notamment au milieu de terrain, quoi. C'est un secteur qui est défaillant depuis le début de la saison. C'est un secteur qui est défaillant depuis le début de la saison et depuis plusieurs saisons. Et il faut y remédier.
T'entends?
J'ai l'impression que c'est un peu un fantasme, dans le sens où c'est un joueur jeune brésilien du championnat brésilien. J'ai été très honnête, j'ai pas le temps de regarder le championnat brésilien, j'ai pas le temps de le voir jouer. Mais le problème qu'on a dans ce championnat souvent, c'est que quand un joueur qui est jeune et qui performe, il est très très vite mis très très haut. Et derrière, tu as un transfert qui s'enchaîne et qui dépasse en fait justement les possibilités du joueur. Je repense à Gabigol qui quitte le Brésil pour l'Inter Milan et qui a jamais percé. Je repense à Gabriel Jesus qui est allé à Manchester City et qui n'y a pas réussi. Et j'ai un peu l'impression, et je me trompe peut-être, tu vois, genre, j'espère complètement que je me trompe, mais que Moscardo, on répond un peu à ça. C'est un jeune Brésilien du championnat brésilien. Et du coup, il y a un peu ce fantasme de se dire, on est le PSG, on aime beaucoup les Brésiliens et on va recruter ce mec parce qu'il est jeune et brésilien. Mais est-ce qu'au
Après,
fond,
si
il
ça se
a
passe bien,
totalement
ça fait
compris
le
le jeu?
démarrage.
Non, mais
Pas touche à
si tu fais
Jésus.
Bruno Guimarães, je saute au plafond. Mais je te dis juste,
Voilà.
le problème, c'est Est-ce que tu as des garanties? Est-ce que des gens ici, même dans le chat, hein, il y a des gens qui ont vu plus de 20 matchs de lui et qui savent exactement son profil s'il va.
Il n'en a pas joué plus de 20.
Et pas touche à Jésus. C'est, il a, ça s'est bien passé avec Pep, mais Jésus, c'est un joueur exceptionnel.
Ah, mais comment. Non, voilà, donc ça correspond à ce que je te dis sur le fantasme brésilien. Donc on ne connaît pas très bien le joueur. Et là, on est en train d'en faire. Je sais pas, le futur Casemiro, le futur je sais pas qui. Moi, perso, je connais pas assez son profil pour le dire, tu vois. Moi, je me dis juste, est-ce que c'est vraiment une vraie réponse ou est-ce que c'est un espèce de jeu d'agent, tu vois?
Pour vous situer le joueur en termes de stats, les joueurs qui se rapprochent le plus de son profil cette saison, c'est Matic et Locatelli. Si ça peut vous donner une idée en Europe de comment le joueur il joue d'un point de vue statistique. C'est les deux profils qui lui ressemblent le plus. Après, c'est un joueur aussi qui, si on part de ses défauts, il ne va pas apporter énormément dans le dernier geste, dans les derniers 30 mètres. C'est vraiment un joueur qui va se situer vraiment entre son but et les 30 derniers mètres adverses. Il ne va pas aller plus loin et il faut l'oublier. Si tu veux faire une passe D type Zaïre Emery au-dessus de la défense, etc., il faut l'oublier. Ce n'est pas lui qui va changer ça. Par contre, si tu perds le ballon à ce moment-là, et qu'on se prend, vous voyez, ce qu'on prend en transition à chaque fois. Bah ça, c'est typique le joueur qui va t'aider à gérer ces phases de transition quand tu récupères la balle. Bon, vous avez d'autres choses à dire sur Moscardo? Parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez vraiment répondu à la question dans le sens qu'est-ce qu'on fait pour maintenant, en fait? Parce que là, j'ai l'impression que Luis Campos, il a déniché une pépite pour le futur. Mais on est le 2 décembre, il y a un mercato qui arrive, on a une saison sans milieu de terrain de haut niveau. Qu'est-ce qu'on fait, Basto?
Qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire
Je ne sais pas, tu as levé la main. Je te laisse continuer ce que tu voulais dire.
Ouais, non, j'avais juste un truc qui me faisait rire. C'est, je regardais les stats de Moscardo sur Rive. Bref, il est dans le 1% pire en passe progressive à son poste. Donc, ça m'a fait rire. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, on ne peut rien faire. Dreyas, il dit qu'on doit recruter un milieu d'expérience et créatif. Oui,
ça, je sais, je ne suis pas naïf.
Donc, en hiver, c'est toujours soit des coups jeunes, soit des coups de joueurs à relancer. Il n'y a pas 36 choix. Donc là, Moscardo est un profil de joueur à recruter en hiver.
Je parlais plus pour l'été prochain. Et puis, fais gaffe, hein, Nix, quand tu proposes, surtout au niveau des stats défensives, le championnat brésilien, pour l'espace que tu as, etc., etc., briller dans le championnat brésilien au niveau de tes interventions défensives, au vu du rythme auquel évolue la balle dans le championnat brésilien, ça t'offre aucune garantie en Europe, mais vraiment zéro, quoi. Donc quand tu compares avec Matic, tu vas un peu vite dans la comparaison. Voyons ce qui vaut en Europe. Comment est-ce que déjà physiquement, qu'il va y avoir des mecs qui seront beaucoup plus costauds en face de lui, etc. Et un rythme qui sera beaucoup plus élevé. Est-ce qu'il pourra? Enfin, on va pas faire des trucs. Alors maintenant pour cet hiver, Basto a tout dit. C'est pas cet hiver que tu vas trouver la perle rare. C'est vraiment pas cet hiver. Faut attendre cet été. Pour l'instant, tu es obligé de faire en fait avec l'effectif que tu as à disposition et à moins d'une opportunité improbable, cet hiver, tu compenseras pas les déficits que tu as au milieu. Ça, c'est sûr.
Ok. Bah, on va conclure sur le fait que c'est probablement une des pistes long terme de Luis Campos.
Attends. Il me vient un truc en tête là d'un coup. C'est qui le dernier 6 qu'on a recruté en hiver?
Mota.
Mota.
Alors j'aurais aimé dire Mota, c'est vrai, mais non, c'est Paredes. Non, excusez-moi.
Paredes, ouais.
C'est vrai que je me rappelle justement du mercato hivernal où on fait Mota et Maxwell quand même. Et donc je me dis que justement, je te dis pas qu'on fera forcément le même mercato, mais il existe en tout cas des possibilités, tu vois.
Mais c'est rare. C'est très rare. Sûr. Et non, c'est un contexte de ouf. Bien sûr, ça bon. Arrive, mais bon, compter bon. Dessus, voilà quoi.
Non, mais je te rejoins, il va falloir être bon, mais voilà, il existe quand même des possibilités, il existe des joueurs que tu peux tenter en hiver, même dans la forme d'un prêt. Ça ne veut pas dire que ce sera une réussite. Hein. Tu peux autant faire un Thiago Motta qu'un Paredes, tu vois. 50 millions même Paredes pour Trépan de Spirale. On a réussi à faire une plus-value de 25 millions au Zénith Saint-Pétersbourg, donc on applaudit très très fort notre directeur sportif de l'époque. Mais non, voilà, je veux dire, tu as des possibilités. Je ne dis pas qu'on fera forcément une très très bonne possibilité, mais un mercato d'hiver, ça peut être autant un Paredes à 50 millions qu'un Thiago Motta à 8 millions. Donc, je ferme pas les portes. Moscardo n'a pas signé. Peut-être que s'il signe, il y a d'autres joueurs qui vont signer. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses à faire sur ce mercato d'hiver.
Ok. Bon, on va conclure le dossier Moscardo. Si j'arrive à retrouver ma souris, très bien, c'est bon. Juste pour vous dire, les gars, n'oubliez pas, si vous aimez le podcast comme ça avec nous quatre, chacun chez nous, vous aimerez encore plus le podcast si on le fait tous ensemble. Donc n'oubliez pas le projet studio dans la description. Vous pouvez nous aider à atteindre ce projet. Donc n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite pour parler des médias parce que le Paris Saint-Germain a une semaine un peu compliquée niveau médias. Pénalty, pas pénalty, on fait chuter l'indice UEFA de la France, le méchant PSG est de retour. Donc non seulement à cause de nous, la France passe derrière les Pays-Bas, dans un match où normalement il y a trois pénaltys qui doivent être sifflés, il y en a un qui est sifflé, c'est un scandale. C'est absolument scandaleux pour, je précise, la presse française, la presse de notre pays, où on a réussi à mettre un match nul pour ne pas être éliminé de Coupe d'Europe. Genre, c'est ce qui leur donne du travail, en fait. Parce que si on est éliminé de Coupe d'Europe, le reste de l'année, ils ont zéro travail. Donc, en fait, ils nous ont allumé là-dessus. On est le club qui se fait douiller le plus souvent. Et le pénalty n'est pas forcément un scandale. Parce que si vous regardez bien les règles en Coupe d'Europe, il n'y a pas d'histoire de ça touche le genou avant et après c'est il n'y a pas main. Ça, c'est une règle qui s'applique en Première Ligue et en Liga, si je ne me trompe pas. Donc, tous les jours, il y a pénalty. Les médias nous tombent dessus. Et comme j'ai dit, l'indice UEFA nous tombe dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vas-y, Darius.
Déjà, tu vois, par exemple, l'équipe et le journal L'Équipe dit que pour eux, par exemple, les deux premiers pénaltys sont beaucoup plus évidents que le troisième et que les deux premiers auraient dû être sifflés. Donc après, je sais pas, toutes les presses ne disaient pas ça. Maintenant, ceux qui le disent, il y a un moment où oui, c'est n'importe quoi. On le sait, Paris fait vendre. Là où on peut se rassurer, c'est que c'est un petit peu moins vulgaire en fait que les précédentes saisons où vraiment, je me souviens, contre United, il y avait des unes qui étaient honteuses. Et ça s'est calmé. Ça s'est calmé parce qu'il y a plus de choses à dire sur le Paris Saint-Germain d'une manière générale par rapport au football, j'ai l'impression. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Hein, Paris fait vendre, que ce soit le Parisien, que ce soit l'équipe, que ce soit... même les pages monde, les pages sport de n'importe quel quotidien, ben on sait que si on fait un papier sur Paris, ben ça sera lu, etc., etc. Ça fait vendre. Et donc il faut dire des trucs. Maintenant sur le point, ben les points UEFA, ça j'avais même pas lu la critique. C'est porte-à-moi parce qu'on est on aurait dû faire mieux dans notre poule, mais on est quand même dans ce qui est la poule de la mort et ça se traduit au niveau des scores avec une incertitude totale. On sait toujours pas qui va finir premier. On sait juste que Dortmund est le seul sûr d'être qualifié et Milan est le seul sûr qui ne peut pas finir premier, mais sinon il y a encore une masse d'incertitudes. Il y a une masse d'incertitudes au niveau de cette poule. Et voilà, sur les médias, moi je trouve que ça s'est calmé. Et après sur le match, sur les pénaltys, il n'y a rien à redire pour moi. Peut-être que tu peux ne pas siffler le troisième. Pour moi, les deux premiers, il n'y était pas forcément. Le troisième, il y était, sans oublier, il était sûr. Et quand je disais l'équipe, eux disaient que les deux premiers, il y était a priori, et le troisième, peut-être pas. Mais bon.
Vincent, comment tu peux me dire que tu es supporter parisien et qu'il y a pénalty zéro fois sur les trois? Il y a pénalty sur au moins deux des trois. C'est pas possible. Ouais, déjà la première d'Hakimi. Genre, t'as joué au foot, tu sais qu'il y a quelqu'un, il te pousse comme ça à la vitesse à qui Hakimi va à 35 km/h. Tu tombes. Il n'y a pas de pénalty, c'est trop léger. Le mec, il te fait tomber, pénalty, t'es dans la surface, en fait. Il n'y a pas de débat à voir. Est-ce que c'est léger, c'est pas léger. À 35 km/h, Hakimi touche le ballon en premier et le mec, il le pousse. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. T'es pas d'accord?
Moi, j'aime plus à la dernière partie de la phrase, en tout cas, de Vincent.
Je suis absolument pas
d'accord. Moi, j'ai aucun scrupule non
plus. Ouais, juste sur le pénalty d'Hakimi, on est en duel qui commence avec Hakimi qui est le premier à mettre sa main sur le corps adverse. Ensuite, il y a les corps qui se frôlent et puis Hakimi va buter sur le genou. Alors, tu peux le siffler, oui, mais la VAR n'a pas à intervenir pour dire qu'il y a une vraie erreur manifeste de but. Il aurait pu siffler, mais ce n'est pas une erreur d'arbitrage quand le VAR ne l'appelle pas.
J'ai pas revu le ralenti depuis, mais il y avait une autre main avant celle qui a été sifflée qui était beaucoup plus flagrante normalement.
Pour moi, elle va vers l'extérieur de la surface, alors que la deuxième, elle interrompt clairement une action de but.
Moi, j'étais d'accord avec Dreyas, après avoir lu les règlements de manière bien précise, effectivement, il y a plus pénalty sur la première main que la deuxième, selon le règlement pile, parce que c'est au départ du centre, où, quand le ballon décolle d'un Parisien, la position du corps du défenseur adverse est-elle naturelle ou pas? Et sur le deuxième, elle est naturelle, il est comme ça, et après, ça fait tac-tac. Alors que sur le premier, il est un peu plus comme ça, tu vois. Donc déjà, une main décollée. Mais c'est, le problème, c'est qu'il change les règles.
Après, le point, c'est les mêmes. Il n'y a ça, même pas de débat. C'est normal qu'il y en ait eu un, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième.
L'arbitre n'a pas été sanctionné. C'est une fake news Twitter, au passage.
De quoi?
Là, j'ai vu le commentaire comme quoi l'arbitre a été sanctionné. Ça, c'est une fake news de Twitter. Il y a même une note qui a été mise dessus comme quoi c'est faux. Mais non, pour répondre à ta question, Nix, en ce qui me concerne, moi, en fait, je trouve ça tant mieux, dans le sens où on joue contre Newcastle. Si Newcastle est capable de nous bouillave l'arbitre, on est pris au sérieux à quel point? En Europe. Je veux dire, excusez-moi les mecs, mais quand on joue contre le Real Madrid, on s'est déjà fait tuer par l'arbitre. C'est arrivé, c'est un fait. Est-ce que vous croyez que les fans du Real, ils se sont excusés à la fin? Non. Est-ce que vous avez vu Marca mettre dans les journaux « Quelle honte, vergüenza ». J'ai jamais vu ça. Donc pourquoi nous, genre ça nous arrive à nous,
non. On
doit s'excuser? Moi je dis juste un truc, ça nous est arrivé. Quand ça nous est arrivé, les clubs en face, ils se sont pas excusés, la presse en face, elle s'est pas excusée. Donc là, il n'y a pas de raison de le faire en fait. Moi je dis juste, tant mieux en fait, parce que ça veut dire que c'est nous qui sommes pris au sérieux. Parce que souvent, quand on joue contre un plus gros club que nous, je te dis pas que l'arbitre il est volontairement contre nous, mais il y a une part d'inconscience. Quand tu arbitres des grosses équipes, des fois, ben, inconsciemment, tu vas te dire, si je foire contre cette équipe, il va m'arriver des couilles derrière. Et je trouve ça content que ce soit arrivé sur nous en fait. Parce qu'imagine, ça arrive à Newcastle, ça, qui vient de jouer pour la première fois Ligue des Champions depuis 20 ans. Bah ben, tant mieux en fait que ce soit dans notre sens. Je veux dire, moi, je vais pas m'excuser. Alors ouais, peut-être qu'il n'y a pas péno sur le dernier. Il y en a un autre qui n'est pas sifflé. Balle au centre, tu rattrapes ce qui n'a pas été sifflé précédemment. Et moi, je compte pas m'excuser, en fait. Je compte clairement pas m'excuser. J'ai pas vu Newcastle s'excuser du coup de coude de Bruno Guimaraes, digne de l'UFC à Ougarté au match aller. J'ai pas vu Newcastle et la presse anglaise s'excuser des grosses erreurs d'arbitrage au match aller. Alors pourquoi c'est à nous de le faire? C'est quoi cet esprit Coubertin de l'important c'est de participer, on n'a pas respecté les règles donc on doit être éliminé. Ouais, c'est ça, point virgule, la presse elle aime le buzz, elle se fait chier parce qu'il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Verratti, il n'y a plus les plus gros stars, t'as moins de choses à dire sur le PSG, donc tu te fais chier, donc t'as.
Ah, c'est pas vrai, tonton. Pour le coup, c'est pas vrai, ils sont vraiment calmés cette saison. Et puis même
ah
par
oui, c'est ça, avant, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Il n'y a plus Messi, il n'y a plus Neymar, tu te fais chier dans la presse, il y a moins de choses
à dire. Je vais vous donner l'exemple.
À dire, justement.
Je vais vous donner l'exemple parfait, je te laisse continuer là-dessus, Dreyas. Dreyas, il dit que c'est fini. Moi, j'ai vu, parce que c'était un sujet à deux parties. La deuxième partie, c'est l'histoire de l'indice UEFA. Là, moi, j'ai trouvé que c'était génie niveau marketing, parce que moi, j'aime bien le marketing et tout. Mais c'est n'importe quoi. Quand Foot Mercato, le titre, c'est le PSG fait chuter l'indice UEFA de la France, alors que ça fait 10 ans. Que c'est grâce à nous que l'indice UEFA, on n'est pas 14e derrière l'Éthiopie ou derrière le Chypre ou je sais pas qui. Mais genre, la Ligue, en fait, tout le monde a cliqué là-dessus. Genre, le poste, marketingement, c'était exceptionnel. Parce que ce que je veux dire, c'est que le Paris Saint-Germain, niveau marketing, tu fais des trucs comme ça. Bah, tu vends du papier, tu fais des clics, tu vends de la pub.
Alors que tu aurais pu tourner la phrase totalement autrement.
C'est ce que je prends la parole. C'est ce que je disais. C'est ce que je
pas pareil, tu fais une minute sur le sujet encore.
C'est ce que je te disais, mais bon, après, on va. Mais c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas dit que c'était plus le cas, j'ai dit que c'était moins le cas. Et non, la raison pour laquelle ça part moins dans ce sens-là, c'est tout simplement que sur le terrain, il y a des choses à dire. C'est-à-dire qu'il se passe des choses. Faut dire une chose, hein, depuis Unai Emery, et Unai Emery a été descendu en tant que coach. Mais d'ailleurs, ça parlait que du coach et ça parlait moins, etc. Même si en Europe, c'est vrai qu'il y avait des trucs à dire. Mais derrière, il y avait quoi à dire au niveau foot, au niveau du Paris Saint-Germain? Il n'y avait rien à dire. Là, il y a des choses, il y a de la matière à dire. Et donc, il parle autant du Paris Saint-Germain, sauf que cette fois, il y a plus de choses à dire. Alors après, si tu fais rentrer dans le mix les foot mercato, les disports, les machins, les bidules, effectivement, tout ça, moi, je ne lis pas et je ne le vois pas. Mais ce que je peux te dire, c'est par rapport à l'équipe, c'est s'ils parlent autant du Paris Saint-Germain, mais ils se sont calmés dans le trashage par principe. C'est ça que je peux le dire.
Mais c'est pas qu'ils se sont calmés, c'est qu'ils n'en font plus du tout, mais ça, c'est...
Oui, oui.
Juste là-dessus, parce que j'ai pas encore interagi, vous avez fait un petit débat entre vous, j'ai pas encore interagi sur le sujet. Quand tu parles de la presse, comme le dit Dreas, déjà ne mélange pas Foot Mercato et compagnie à ce qui est la presse écrite quotidienne qui sort, que tu peux acheter, ou les grandes chaînes comme Canal ou RMC qui vont diffuser le match et en parler. Faut pas tomber non plus dans une certaine paria. Moi, j'ai lu l'équipe les lendemains des matchs, j'ai lu le Parisien, j'ai pu écouter notamment l'intervention de Riolo, j'ai pu écouter Canal+. Alors, sur l'arbitrage, ils n'étaient pas du tout en train de dire Paris a volé les trois avec trois pénaltys. Ils étaient pas, non, ils ont fait ce que font les autres médias étrangers aussi, c'est-à-dire quand il y a plusieurs situations qui portent à décision, ils invitent des arbitres et ils regardent les trois. Mais ce n'est pas pour dire qu'il aurait dû siffler les trois, etc., etc. C'est juste une explication de pourquoi ça a fait débat et pourquoi c'est litigieux. Et sur l'indice UEFA, pareil, ils ont juste dit que Paris, cette année, qui devrait être notre locomotive, n'apporte pas beaucoup de points l'année où il faut, parce qu'on sait que c'est l'année charnière avant la prochaine réforme de Ligue des Champions, si on veut trois clubs français au lieu de deux. Et c'est vrai que cette année, pour le moment, Paris n'est pas cette locomotive-là, et heureusement que les clubs français gagnent en Europa League. Mais après, ils n'ont pas fait des titres en mode « Paris fait chuter le UEFA, ça c'est que Foot Mercato », et pour moi, c'est pas ce que j'appelle la presse. Donc, faut pas être dans…
Et donc,
Vas-y, tonton, enchaîne, je crois. Ouais, justement, parce que du coup, je me suis rendu compte, comme tu l'as dit, j'ai répondu qu'à la première partie de ta question et pas la deuxième. Concernant l'indice UEFA, c'est plus facile de mettre un titre, le Paris Saint-Germain… N'est pas la locomotive qui tire la Ligue 1. En effet, tu peux faire ce constat sur cette saison-là. Tu aurais pu titrer le titre autrement. Où sont passés l'OL, l'OM et Monaco depuis 10 ans aussi. Mais ça vend moins. Ça vend moins. Et aussi, les supporters de ces clubs-là, ils vont tirer la gueule en disant « Ouais, mais nous, on n'a pas le budget du Qatar. » Comme si des clubs comme l'Ajax, Brighton, qui performent depuis, eux en ont. Donc moi, je trouve ça un peu injuste. Tu sais juste que tu vas vendre plus de papiers en disant que le PSG fait chuter l'indice UEFA. Que si tu fais la même chose avec Marseille, Monaco et l'OL en les titrant les trois en disant où sont passés l'OL, l'OM et Monaco depuis 10 ans, là non seulement tu te fais bien tailler en tant que presse, mais en plus tu mets le doigt là où ça fait mal. En fait, tu montres que la Ligue 1, elle faiblit. Et c'est pas normal. Tu étais dans un développement de la Ligue 1 ces dernières années, c'était en train de bien se développer. Est-ce que cette saison, vous trouvez que la Ligue 1 elle est aussi compétitive que l'année dernière, ou elle a baissé de niveau depuis l'année dernière? Là, c'est pas normal. Moi, ce que je trouve, c'est qu'en fait, tirer sur le PSG, ça permet d'éviter de mettre les vrais problèmes. Ça permet d'éviter de montrer que Lyon, ils sont en train de se casser la gueule et que c'est une triste blague, ce club, depuis que Textor l'a repris. Ça t'évite de montrer que l'OM, c'est pareil. Hein, Longoria, il fait des beaux sourires et il fait des belles interviews, mais dans les faits, son club, il n'avance pas plus que ça. Ça change de coach tout le temps. Monaco, qui est censé être notre concurrent, qui a quand même un milliardaire russe à sa tête, il faut le rappeler, hein, c'est pas des bénévoles, ça fait rien. On peut parler aussi de Nice et Rennes qui ont des multimilliardaires à leur tête, hein. Radcliffe et Pernaud, pour ceux qui connaissent un peu les fortunes françaises, ils sont où ces clubs-là? Que font-ils depuis 10 ans? Rien.
Pernaud, c'est pas Jean-Pierre Pernaud.
Pas Jean-Pierre Pernaud, mais comment il s'appelle là, tu sais, le richissime milliardaire,
son fils. Arnaud.
Ouais. Voilà, non, sa fille, son fils, il est marié à Salma Hayek, là, je sais plus comment il s'appelle.
Pinot.
Voilà, c'est Pinot à Rennes, 8e fortune de France.
Moi, il y a un truc, c'est... on s'est pris deux jaunes dans le match en Ligue des Champions parce que grosso merdo, on joue les victimes. Et là, depuis une demi-heure, on est en train de tenir le discours de on est des victimes. C'est il y a un moment où, moi je trouve, et j'exprime mon avis là-dessus, j'étais tout à fait d'accord avec ce que tu disais dans un premier temps, tonton, pas du tout d'accord avec ta deuxième intervention. La première, j'étais complètement d'accord. C'est il y a un moment où stop, se placer, ouais, le monde est contre nous, machin, bidule chouette, etc., etc., etc. Et cet état d'esprit d'ailleurs qu'on a en tant que supporter, alors j'imagine que, et d'ailleurs, quand tu écoutes les clubs, tous les clubs tous les clubs du monde ont cette impression. Si tu regardes, tu prends n'importe quel match, tu demandes à des supporters du club, tu avais l'impression que l'arbitre était pour qui? Les deux vont te dire, ouais, il était pour l'adversaire. Et les deux vont te dire exactement la même chose, quoi. Et sinon, passer ça, il y a un moment où est-ce qu'on peut pas justement avoir une attitude différente? Parce que quand tu vois les joueurs, on n'arrête pas de faire les pleureuses sur le terrain au point où ça nous coûte des jaunes qui nous handicapent. Bonjour Dembélé. Et puis là, on fait les pleureuses par rapport à la presse. Il y a un moment où soyons plus grands. Et c'est là où moi je suis complètement d'accord avec ce que tu disais au début, tonton. C'est ils font ça pour vendre, mais vas-y, on va pas s'excuser. Peut-être qu'on en a profité, tant mieux. Et puis arrêtons de jouer la carte de la victime. C'est bon, quoi.
Bon, on va clôturer ce sujet. Moi, je tenais juste à dire que je pense qu'effectivement, on est genre des cibles, mais Moi, c'est ce qui me fait kiffer le Paris Saint-Germain, je suis désolé. Moi, quand on montrait la carte, quand le Paris Saint-Germain jouait un match de Ligue des Champions, et genre, tu vois, Paris supporte le PSG, tu vois, tout le reste de la France supporte le Bayern ou je sais pas qui. Moi, j'adore être le club détesté. Mais tout le monde nous déteste. Et c'est kiffant, c'est ce qui me fait kiffer encore plus le PSG. Parce qu'il y a le côté, on n'aime pas les Parisiens aussi, plus le côté PSG, plus le côté Qatari. On a un summum de trucs qui fait qu'on est détesté par plein de gens. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que je kiffe encore plus ce club.
Et c'est revient à nouveau.
Bah oui. On revient tout de suite pour parler du petit Barcola. Désolé si je vous ai cassé les oreilles avec le jingle. Barcola, bouc émissaire. On a vu Daniel Riolo qui était passé dans l'émission. D'ailleurs, avant le match, qu'on était encore en train de parler de Monaco, il avait déjà tiré sur Barcola pour dire que c'était, je ne me rappelle plus, c'était Bambi ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dit, que c'était, il n'était pas encore prêt pour au niveau. Après, il y a eu son entrée où il a encore terminé Barcola dans l'after RMC. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé avec Bradley Barcola? Parce qu'on a un joueur quand même qui... Bah, je ne veux pas dire que sa rentrée a changé le match, parce que pour moi, ce qui a principalement changé le match, c'est que tu as remis Mbappé dans l'axe, chose que tu dois faire tout le temps, en fait. Mais il a fait une entrée qui est plutôt bonne. Et du coup, on lui tombe dessus pour ses ratés, alors que bah, je pense que si c'était Dembélé ou Kolo Muani qui avait fait autant de ratés, on aurait pu leur tomber dessus. Mais on parle d'un joueur qui n'a quasiment pas joué depuis qu'il est là. Il a... Oui. Des minutes de jeu par-ci par-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce ratio-là? Est-ce que c'est normal de lui tomber dessus ou est-ce
Je dois t'interrompre, Nix. Tu peux pas dire ça parce que Randal Kolo Muani jamais n'aurait pu se procurer tout ça en fait. Mais vas-y, je te laisse continuer.
Ta vieille blague.
J'ai rien dit, moi.
Ta vieille blague.
J'ai rien dit.
Ouais, après, si tu veux continuer là-dessus, je pense que si Kolo Muani a les occasions de Barcola, ça fait filer. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je vais lancer Basto dessus. Du coup, toi, tu penses quoi de tout ça, Basto? Comment tu fais le pour et le contre de ce qui s'est passé avec Barcola?
Non, mais c'est ce que j'ai dit après le match mardi. Barcola change, même si je suis d'accord avec toi, c'est aussi le fait que Mbappé soit recentré, puisque d'un coup, Mbappé est plus présent et crée plus d'occasions. Mais Barcola, quand il rentre, le fait qu'il étire et qu'il passe, ça passe beaucoup sur son côté gauche et comment il se ressent, il change la face du match. C'est sûr qu'on a une équipe qui se crée peu d'occasions avant l'entrée de Barcola et qui s'en crée tout de suite immédiatement beaucoup après son entrée. Maintenant, il en rate évidemment beaucoup trop sur ce match. Il doit en mettre au moins une. C'est normal qu'on le critique sur ce manque d'efficacité, mais voilà, pourquoi on s'attaque à Barcola alors que Dembélé qui rate les mêmes, quand on dit que Dembélé, justement, la fameuse balance positive-négative, même s'il rate beaucoup, il fait des différences, Barcola, c'était un peu la même chose, mais c'était un Barcola qui doit en mettre. Bah, c'est la même chose que je dis quand Dembélé n'est pas bon et que je dis que Dembélé, sa balance est négative. Bah, Barcola, là, elle était négative au parc aussi parce qu'il doit en mettre une. Mais pourquoi on tombe sur lui, la petite cible facile? Le joueur qui vient d'arriver, qui n'a qu'un an pro, pour pas aller tailler des joueurs qui ont un statut plus grand. On parle de Dembélé, on parle de Mbappé aussi, qui est très critiquable, évidemment, sur le match contre Newcastle, même s'il met son pénalty. Et on peut parler d'autres joueurs, là, on en reviendra tout à l'heure, mais des joueurs qui sont censés être des cadres, comme Lucas Hernandez, etc. Non, c'est Barcola qui prend pour les autres, et c'est un peu trop facile, je trouve. Donc, moi, je continue à faire confiance à Barcola, et je pense qu'en plus, il l'a montré à Lyon, c'est quelqu'un qui est assez efficace à son poste, quand il aura la confiance et la maturité pour Paris.
Franchement, moi aussi, malgré tout ce qui s'est passé, je suis limite à me dire que moi, perso, à Dortmund, je serais pas loin de le mettre, lui. Parce que les autres solutions sont pas forcément... Parce que à qui mettre à la place de Dembélé? En fait, déjà, Barcola, son côté préférentiel, c'est à droite. Donc, en fait, tu as le choix entre lui, Lee Kang-in ou Kolo Muani à droite. Moi, j'aime bien l'option Barcola. Moi, je vais lui faire confiance à ce petit parce que même si en finition, ça n'a pas encore été ça, je pense qu'il en a sous la semelle et je pense qu'il va être très très bon avec le Paris Saint-Germain. Je te laisse continuer, tonton.
Bah, moi, je me suis juste amusé à vérifier un truc et du coup, je trouve la situation très très drôle. Aucun des trois attaquants titulaires n'a tiré plus que Barcola. Aucun. Les mecs, ils ont eu 80 minutes, 90 minutes, 98 minutes avec le temps additionnel. Ni Mbappé, ni Ousmane Dembélé, ni Kolo Muani n'ont tiré plus que Barcola qui a joué 20 minutes. Donc là, je me dis juste, la problématique, elle est autre part. Le mec, il arrive à se procurer des occasions. Le mec, il fait des dribbles. Le mec, il percute. Il fait tout ce qu'on demande de lui. Après, ouais, la finition, elle est problématique. Et ça, bah, faut couper la poire en deux. Faut dire ce qui est bien, faut dire ce qui est pas bien. Malheureusement, le mec, il faut le dire, il te fait trois grosses occasions manquées. Alors oui, effectivement, s'il en met une, tu peux te retrouver en tête, gagner Newcastle et du coup, bah, te qualifier directement, en effet. Tu peux faire la même reproche à Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Mbappé qui, à eux trois, se procurent à peine 9 tirs. Là, il y a plus une problématique pour moi de ce côté-là. Et le fait de tirer sur Bakola, bah, ça permet d'éviter de tirer sur ces trois mecs-là qui ont été titulaires et qui n'ont pas forcément bah, assumé leur rôle d'attaquant. Donc, je te dis pas que Barcola doit être titulaire de suite à l'inverse de Nix, par exemple, contre Dortmund. Mais je pense qu'il faut être raisonnable avec lui. Oui, il a coûté cher, mais c'est un remplaçant et il est jeune et il doit se développer. Il y a d'autres gars qui sont titulaires à son poste et c'est eux, à un moment, qui sont censés assurer le taf. Moi, je trouve que on tire toujours sur les mêmes. On tire sur Randal, on tire sur Ousmane.
Oh,
Par contre, il y en
Randall, il y
a
a
un.
raison, il y a matière. Hein.
Attends, je te
Randall, il y
dis
a
pas qu'il y a
matière.
pas, je te dis pas qu'il y a pas matière. Je te dis pas qu'il y a pas matière pour les deux. Par contre, il y a un mec qui s'appelle Mbappé. Mais alors
Merci,
lui, mais personne ne l'emmerde cette année, quoi. Le mec, il fait des prestations minables. Il n'a jamais été aussi mauvais depuis qu'il est au PSG. Mais comme il met ses buts, on ne dit rien. Mais faut rien dire. Du coup, on va taper sur Randal, on va taper sur Ousmane, qui eux ne sont pas des buteurs, mais on met le buteur. Tranquille, il a mis son but sur penalty, il a rien fait à part ça. Ah si, si, il a raté une occasion super dangereuse contre Nick Pope, et là, il n'y a personne qui allait tirer sur lui comme on a tiré sur Barcola. Il en a même raté deux face à face ultra décisif contre Pope, mais personne ne l'a fait chez lui. Donc moi, à un moment, je veux bien qu'on dise Barcola, bah, son entrée, il n'a pas marqué. Par contre, qu'on dise que son entrée, elle est complètement minable, bah, si tu le dis pour les trois titulaires aussi, en fait.
Vas-y, c'est à toi, Dreyas, avec une petite précision que God First pour aller dans le sens de tonton, Mbappé contre Dortmund, c'est un tir cadré sur penalty aussi. Au parc, hein, les deux matchs.
Cette proportion de devoir justifier l'un par rapport à l'autre, c'est fa... voilà. Juste alors, y a qui demandait tout à l'heure, posez votre like, les gens. Je suis pas host aujourd'hui, mais posez votre putain de like. Vous êtes avec nous depuis 36 minutes. Vous prenez votre pied, avouez-le. Allez, vous faites le petit pucin. Et comme ça, c'est fait. Et ensuite, je vais surprendre Jacques Somme et je sais plus qui parce que il a raison, Nix. Prochain match, eh ben Dembélé il est suspendu. Eh ben, du coup, je mets qui à droite? Eh ben, je mets Randal. Et voilà. Et pourquoi je mets pas Barcola? Pourquoi je mets pas Barcola? Parce que bah, c'est un jeune. Et autant, voilà, moi, c'est le seul truc sur lequel j'ai envie de revenir. Moi, c'est sa rentrée face à Lyon. C'est quand il rentre à la 80e et il montre que bah, il a la personnalité pour. Et je sais qu'il va se relever. Mais de là, juste après un match comme ça, le mettre sur un match qui est aussi couperet, aussi décisif, titulaire, eh ben il est quand même jeune et faut y aller quand même un petit peu mollo. Et donc je mettrai Randal Colomouani et Barcola, les
Alors,
gens.
Notre seul point fort, c'est l'axe avec Hakimi et quelqu'un qui s'est combiné avec lui et tu mets Randal. Non, mais sérieux.
Non,
c'est,
non, non,
mais,
je suis d'accord avec
Darius. Parce que t'as pas le choix. Ben, tu mets qui d'autre? Tu mets qui d'autre?
Moi, je mets là
Moi, je
où
suis d'accord avec Darius.
Même Asensio, tu vois. Je mets tout sauf Colo.
Alors, si tu veux, Asensio, mais en tout cas, je mets pas Barcola. Je mets pas
Non,
Barcola
je mets
parce que
Barcola
le
parce que c'est
la
celui qui
pression.
est le... qui a le même profil que Dembélé, le qui s'en rapproche le
C'est
plus.
vrai,
Et c'est
mais
notre
par contre la pression elle est monstrueuse sur ce
Non, non.
match-là. Et si jamais il se plante après le match qu'il a fait et si les critiques elles sont là, et ben là pour le coup le joueur tu peux le flinguer.
Moi,
Juste
je
tu
mets
peux
Asensio.
Ça sera
littéralement
Randal
dans
dans
le
l'axe.
dimanche.
Non, mais Darius a raison.
Barcola à droite.
Darius a raison. Randal, depuis qu'on l'a recruté, on ne l'a pas fait jouer à ce poste-là. À un moment, il faut qu'on le
On
fasse
fera
jouer
même
là où
plus.
il est le mieux. Si
Ouais,
tu
mais
mets
on fera
Asensio
même
faux
là.
neuf, bah si, regarde, tu mets Asensio faux neuf, tu mets
Ouais,
Mbappé
oui,
à
mais
gauche
on ne le
et tu
fera
mets
jamais.
et tu mets ton Randal à droite, je te jure que là, tu l'as la complémentarité. Et là, tu pourras mieux
Il ne le
utiliser
fera pas, il
chaque
ne le fera
joueur.
pas.
Mais écoute, si tu veux, mets Randal en neuf, mets Asensio à droite et quand ça ne marchera pas, tu te plaindras pas, Basto. Ok?
Mais c'est pas moi, je t'ai dit juste que Lucho le fera pas. En colo à droite,
Qu'est-ce
il
que
le
t'en
fera pas.
sais? Eh ben, tu verras.
Oh bah, il l'a pas fait une seule minute, il le fera pas.
Ben écoute, à un moment, il faudrait bien qu'il tente d'autres choses. Et il voit bien que ces solutions ne marchent pas. Il y a des joueurs qui reviennent, qu'il peut utiliser différemment. Ben à un moment, il faut que tu utilises certains joueurs différemment.
Ok,
Ça,
donc tout
je
le
suis
monde a
d'accord.
parlé sur Barco. Vous avez d'autres choses à dire?
C'est bon.
Après, on peut ouvrir le sujet de Lee Kang-in parce que ça en parle pas mal dans le chat et tout.
Oui, aussi.
Sur le côté droit, oh, bah écoutez, on va revenir là-dessus
Moi, je mettrai non plus.
sur qui mettre à droite contre Dortmund. On reviendra là-dessus. Ah, on va enchaîner tout de suite avec quoi penser les gars, si jamais le Paris Saint-Germain va en Europa League. Qu'est-ce que vous allez penser de tout ça? Vas-y, je te lance ton truc.
J'ai la flemme. Tu payes l'abonnement RMC? Genre, va falloir que j'achète un abonnement de plus et que je le paye pour regarder le PSG comme si je payais pas déjà assez. Faudrait peut-être se foutre de la gueule. Et la Ligue Europa, je l'ai déjà dit en fait la semaine dernière, on va la gagner, on va nous dire eh, vous avez gagné la Ligue Europa, vous êtes trop nul. On la gagne pas, on va se faire chambrer encore plus. Enfin, moi, ça m'arrange même pas de la jouer en fait. Vraiment. C'est... J'ai pas envie de la jouer. Bon, j'ai la poisse, donc je risque de la jouer. Hein, parce que de toute façon, j'ai dit qu'on devait pas perdre contre le Galtier italien, on a perdu contre le Galtier italien. J'ai dit qu'on devait gagner contre Newcastle, on a réussi à même pas les gagner. Donc c'est vrai que là, à un moment, il faut s'y pencher sur cette théorie. Moi, ça m'intéresse pas. Vraiment, et je le dis, moi, ça m'intéresse clairement pas. Après, si on doit la jouer, ben on la jouera. Et tant pis, hein, j'aborderai chaque match avec sérieux, tu vois, parce que faut pas non plus trop se mentir. Mais voilà, moi, si j'ai le choix, là, à l'instant T, que tu me demandes si je veux jouer l'Europa ou pas, ben non. Voilà, le PSG, sous Colony Capital, qui joue l'Europa League, ça me pose pas de problème. Le PSG des années 2000, qui galère, qui joue l'Europa League, ça me pose pas de problème. Le PSG sous QSI, qui joue l'Europa League, là, ça me pose beaucoup de problèmes. Voilà.
PSG merci à Anthony qui est devenu membre de la chaîne. Je te laisse continuer de reste.
Et PSG sous colonie et PSG sous machin, ils faisaient pas l'Europa League ou en tout cas ils passaient pas l'épaule. La question elle est pas là pour moi. La question elle est si tu vas en Europa League et tu sors en quart de finale quoi. Il est là le débat. Il est là le problème parce que contrairement à ce que dit Tonton, je suis pas du tout d'accord avec la lecture de Tonton. Si jamais tu vas en demi-finale, que tu as un beau match en demi-finale, que tu vas en finale et que derrière t'affiches la coupe aux petites oreilles. Mais t'affiches la coupe à la petite oreille dans ton truc et que tu reviens l'année prochaine auréolé de cette confiance-là, etc. Bien sûr, il y aura des rageux qui parleront, mais de toute façon, Newsflash, si on perd en finale de Ligue des Champions de manière complètement légitime, il y aura des rageux qui parleront. On aura toujours des rageux qui parleront. Faut l'accepter. Mais si t'as un beau trophée, bah t'as un beau trophée. Maintenant, le problème, c'est que cette équipe, vu comment elle joue, je sais pas si elle saute en quart, mais je sais qu'elle passe pas les demi d'Europa, hein, parce que l'Europa, c'est pas des matchs en carton hein, à partir des demi-finales. Hein. Il y a des équipes qui sont très, 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 très solides à partir des demi-finales d'Europa. Et ce Paris Saint-Germain-là, s'il joue comme ça, je pense pas qu'il passe les demi-finales. Donc la question n'est pas est-ce qu'on va être reversé en Europa League. La question, c'est si est-ce que tu préfères sortir ou est-ce que tu préfères être ridicule en Europa League.
Mais je crois que tu peux plus sortir, là.
Oui. Mais ce que je veux dire, c'est je préfère de très, très loin ne pas l'Europa League pour être ridicule en Europa League. Maintenant, si tu me dis que tu vas en Europa League pour faire un très beau parcours et pour accrocher une Coupe d'Europe, bien sûr que je ne suis pas d'accord avec Tonton.
En termes d'indice UEFA financier, en fait, tout simplement.
Mais je ne parle pas sur ce plan.
Tu
disais que tu n'en avais rien à foutre en tant que supporter, en tant que spectateur. Pour moi, non, ça reste une Coupe d'Europe. Quoi. Et là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord avec toi.
Mais en termes financiers et points UEFA, tu pourras nier autant que tu veux. Un huitième de finale aller de Ligue des Champions, ça remporte plus que gagner la Ligue Europa en termes de points UEFA et en termes de fric. Voilà.
D'accord. Tu l'avais pas dit dans ta première intervention.
Alors,
j'ai répondu à ta première intervention.
Basto, du coup.
Mais moi, contrairement à ton truc,
Basto, le connaissant, sachant que c'est un mec qui est limite, il s'en fout du Qatar et tout, je pense qu'il est capable de vibrer en Europa League. C'est un mec qui va voir les matchs du Paris FC, s'il vous plaît.
T'inquiète que si on sort en quart de finale en jouant mal, il va pas vibrer devant les matchs Europa League.
Il ira voir le père Gobelins. Gobelins, tu sais.
Je vois les Gobelins quand ils étaient en National 2. Bon, là, ils sont descendus en National 2. Bref, je vois de plus en plus de monde avoir la stratégie de il faut mieux finir soit premier du groupe, soit aller en Europa, mais pas être deuxième du groupe parce qu'on sait qu'on n'a pas le niveau et qu'on se fera massacrer par tous les 8 premiers du groupe actuel en Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, on n'a pas le niveau Ligue des Champions cette année. On sait qu'on ne la gagnera pas, même sauf miracle. Bah, voilà, c'est même pas miracle qu'il faudrait. Je n'imagine même pas. Donc, si on n'a pas le niveau Ligue des Champions, on a le niveau Europa League. En Europa League, on peut se faire plaisir. On peut avoir des matchs où il y a quand même du suspense. On rentre directement en huitième de finale, il me semble, si on est éliminé. Donc, ou c'est en 16e. Est-ce qu'on est dans les barragistes?
Non, tu es barragiste si tu perds le 3e. Non, tu es en barrage de Ligue Europa si tu perds le 3e maintenant.
Ouais. C'est ça, t'es 16e. Tu joues contre les deuxièmes de groupe de leur poule. Donc, bah, tu es en 16e, tu peux avoir un beau parcours, tu fais 16e, 8e quart. Tu regardes la tête des clubs, pour le moment, les 3e de Ligue des Champions, il n'y a pas non plus de mastodonte. Alors, il y a Liverpool qui est en Europa League. Après, les deux plus dangereux, ça va être Leverkusen et Roma. Donc, si tu peux…
Villarreal, t'en as des clubs quand même, Basto. Hein.
Villarreal qui perd contre Rennes et qui est 14e de Liga. Villarreal qui est 14e de Liga et qui perd contre Rennes. Ah oui, c'est sûr.
Je vais pas te trouver.
Moi, je dis juste, il n'y a pas Unai Emery dans cette compétition, donc elle est pas gagnable.
Les dangereux après Liverpool, c'est Leverkusen qui gagne 4-0 tous ses matchs en Bundesliga.
Ah, Xavi Alonso, il nous démonte. Vous êtes des ouf, vous. Vous avez vu le football de Xavi Alonso?
Il y a West Ham aussi qui sont sérieux. Il y a West Ham aussi qui sont sérieux. Il y a l'Atalanta aussi qui sont là.
Mais West Ham, sérieux. Newcastle, c'est en dessous. Tout le monde en parle de. Ça va, West Ham. Faut pas non plus. Ils sont combien, West Ham, en championnat?
Ouais, mais bon, quand pas 9e, ça nous a des coups gartés, faudra pas rire.
Non, mais bien sûr que ce sera pas des matchs faciles, mais ne me dis pas qu'on peut pas battre des équipes comme West Ham ou Villarreal non plus.
Si tu joues comme ton match contre Newcastle, contre West Ham, en aller-retour, je suis pas sûr que t'es pas sûr de passer.
Si tu joues comme retour, si. En aller-retour, si tu joues comme au match retour, tu passes. Et puis, est-ce que West Ham jouera comme Newcastle à match aller? Non, parce qu'ils sont moins bons qu'eux aussi. Donc, pour moi, Paris a une chance d'aller plus loin que la demi-finale dans cette compétition. C'est pas. Tu nous fais passer en niveau conférence ligue.
Nous sommes dans les commentaires d'arrêter la dépense. Ouais, vas-y, continue.
Et juste contrairement à tonton, moi, j'ai pas l'abonnement Canal, j'ai l'abonnement RMC, et puis j'ai mes jeudis soirs qui sont beaucoup plus slip que mes mardis et mercredis. Donc c'est marrant, ça aussi.
L'égoïsme, j'y crois pas.
Bon, nous sommes dans les commentaires d'arrêter la dépression, donc on va passer à un autre sujet qui va être demain. Le Paris Saint-Germain joue à 13h contre Le Havre. On se déplace là-bas. Est-ce le match de la dépression? On revient tout de suite, les amis. Petit clin d'œil à notre ancien joueur Mathieu Bonnemer qui a fait du très bon travail du côté de Le Havre, qui est du coup monté en Ligue 1 cette année et qui n'est pas ridicule. Notamment, j'ai vu juste avant la trêve, je regardais Le Havre-Monaco, ils ont réussi à prendre le match nul, malgré, je crois qu'ils ont eu ils étaient à 10 à un moment, je crois. Qu'est-ce que vous pensez de ce match juste après ce qui s'est passé mercredi, un match à 13h, est-ce un match piège ou est-ce que vous pensez que les 3 points vont être faciles? Vas-y Dryas.
Match à 13h c'est toujours un peu casse-couille et s'il y a bien une équipe qui est casse-couille cette saison, c'est le Havre. Je crois qu'ils en seront à 3 défaites. Ils sont à 7 matchs nuls contre tous ceux qui sont censés être les cadors. À chaque fois, ils accrochent les points. Il y a tout du match piège. En plus de ça, il y a eu un match qui s'est joué peut-être avec un chouïa pas assez d'intensité, mais on n'est pas sur le débrief du match, mais qui a fini avec une pression folle en milieu de semaine où inévitablement, tu as lâché de l'infus nerveux. Le match contre le Havre a, pour moi, tout du match piège. Il a toutes les caractéristiques du match de piège et s'en sortir sera pas si simple, je pense.
Basto, toi qui es grand spectateur de la Ligue 1 et qui a dû voir le plus de matchs de Le Havre parmi nous tous rassemblés, qu'est-ce que tu penses de ce match? Ah oui, c'est vrai que l'autre, il a l'abonnement Prime.
Le Havre, au-delà de Bodmer, il y a Elsner qui fait aussi un très bon travail. Il s'était rencontré à Amiens à l'époque. Bodmer était joueur, Elsner était coach et il l'a ramené au Havre. C'est une équipe qui est très chiante à jouer, qui est très chiante à voir jouer aussi pour le coup. Le Havre n'a mis qu'un but, n'a marqué que sur un match. Ils en ont mis deux, c'était contre Toulouse, mais ils n'ont marqué que sur un match sur leurs 7 derniers Ligue 1. C'est une équipe qui ne marque plus. C'est une équipe qui y a eu même 4-0-0 sur les 5 derniers matchs du Havre, donc voilà, ça donne une idée des matchs qu'il peut y avoir, mais c'est des 0-0 notamment contre Lens, contre Monaco. Après, c'est vrai que sur leur défaite, ils se sont quand même pris des petites branlées par Lille et Marseille, donc des équipes qui ont un potentiel offensif. Ils se sont pris 2 et 3-0 vu notre potentiel offensif qui est quand même supérieur aux équipes qu'ils ont rencontrées, que ce soit dernièrement c'était Metz, bon, même s'il y a eu Monaco, c'était Metz, Nantes, etc. C'est des équipes qui n'ont pas le potentiel, donc généralement c'est une équipe qui ne marque peu. Et avec notre potentiel offensif, on doit au moins en mettre un. Donc, ce n'est pas un match qui me fait peur, même si je pense que ce sera un match pas très passionnant à voir.
Tonton.
Dimanche, 13h.
Ah, ça va.
C'est pile le moment de la digestion du repas du dimanche midi en famille, le fameux poulet frites. Le Havre, en plus, une ville où genre il pleut plusieurs fois par jour, avec de la pluie genre bien bien chiante. Wow, j'aimerais pas être les joueurs. Hein. Franchement, me lever le dimanche matin, là, genre tard le match de district au Havre. Je connais pas assez bien le club pour en parler en eux-mêmes. Par contre, je sais que l'horaire et le jour vont être super chiants pour les joueurs. Est-ce que les joueurs vont tous avoir la motivation pour jouer ce match? Excellente question. Je pense qu'il faut les motiver sur le fait que Nice et Monaco facilement derrière et qu'il faut continuer les efforts pour être tranquille à la trêve. Quelles seront l'équipe? Je ne sais pas encore, mais je pense que là, tu vas logiquement faire tourner. Comme l'a dit Basto, tu viens de jouer un match très compliqué mentalement contre Newcastle. Je pense que certains vont avoir besoin de souffler un peu. Donc, je ne serais pas étonné de voir quelques changements. Et un match assez pénible pour le Paris Saint-Germain. Je ne dis pas forcément une défaite du Paris Saint-Germain, mais je vois bien un match où le Paris Saint-Germain gagne, mais de peu et dans la difficulté. Par exemple, un bon vieux 1-0 des familles ou un 2-1 où on galère en terre normande, parce qu'on m'a demandé où était le Havre. Demande à Alphonse Braun pour celui qui a osé poser la question dans les commentaires. Voilà, je pense que jouer la puissance du port du Havre un dimanche à 13h, ça ne sera pas facile. Et on peut gagner, mais ça risque d'être un peu compliqué.
Il y a quelqu'un qui a envie de faire une compo probable, on passe directement au prono.
Vas-y, pas sur les
pronos. Darius, tu faisais une drôle de tête pendant 30 secondes, tu cherchais quelque chose.
Non, j'ai cherché une vanne avec Alphonse Braun à Tonton, mais j'ai pas réussi à trouver l'axe de la vanne, donc finalement j'ai laissé tomber. Et après, sinon, il y avait Tonton, il réveille un sujet, mais c'est un sujet qui est taquin. C'est quand est-ce que le Paris Saint-Germain a vraiment dominé dans le jeu cette saison, que ce soit le Havre ou autre.
Quand est-ce que c'est Lens, Marseille, Lyon, que des équipes
Lyon, Marseille,
l'AC Milan aussi, au match aller.
Ouais.
Dortmund au match aller. Ouais,
j'ai problème de mémoire, mais moi j'attends toujours notre match référence, à titre perso.
Non, mais après, tu as raison, dans un sens, toutes les équipes que je t'ai citées, où on a fait entre guillemets dominer le match et tout, c'est des équipes où au moment où on les affronte, elles sont en crise. Terzic a failli être viré de Dortmund au moment où on les affronte. Marseille, ils étaient en catastrophe. Lyon, n'en parlons même pas. Lens, le début de saison, ils étaient, je crois, sur 4 défaites au moment où on les affronte sur les 4 premiers matchs.
Monaco, ils prennent 12 buts par match.
Ouais, voilà, donc je rejoins un peu Z sur le fait que oui, il y a des matchs, alors je contredis un peu dans le sens où oui, il y a des matchs qu'on a dominés cette saison, mais pour ta décharge, là où tu as raison, c'est que oui, on n'a pas affronté des top équipes en top forme et qu'à ce moment-là, on les a bien dominés comme il faut.
Je suis vraiment pas pour que tu me décharges, mais ceci dit, par rapport à ce que dit Franck, c'est le Havre. Ouais, mais le Havre, ils sont vraiment chiants, Franck. Ils sont vraiment chiants. Ils ont accroché, alors comme rappelait Basto, hein, contre Lille, c'est Lille et Marseille, ouais. Mais sinon, ils ont accroché tous les autres trucs. Et à chaque fois, c'est des matchs nuls. Oui, ils marquent peu, mais c'est très difficile de marquer contre eux. Et vu notre difficulté à créer des décalages pour les attaquants, donc oui, c'est le
meilleur attaque.
Tu disais, Basto?
Je dis, on est quand même la meilleure attaque de Ligue 1 d'assez loin. Donc
Oui, c'est sûr. Mais enfin, ouais. Bon, c'est un bon tort.
Je vais rester avec Franck, les gars. C'est le Havre. Ouais, et puis on est le Paris Saint-Germain. Il faut leur coller une manita demain. Et puis,
attention, Alphonse Braun.
J'ai pas dit qu'on va. J'ai dit, faut, dans notre standing, on est censé leur coller une manita demain. Voilà. On est le Paris Saint-Germain, les gars. C'est pas parce que la Ligue des Champions, ça se passe mal cette année que. Faut dire en Ligue 1 qu'on doit avoir peur de tout le monde. Faut arrêter les bêtises.
Non, bien sûr.
Monaco, pour moi, c'était un bon match. Après, on est passé à deux doigts du match qui tourne pas dans notre sens parce que si Donnarumma fait pas des arrêts clés, à un moment donné, le match il se passe complètement autrement. Il nous a bien gardé dans le match, le Didio. On est qui, nous? On est le Paris Saint-Germain, Franck. Écoutez, vos pros.
C'est ça que vous voulez dire, Darius, qui m'a fait penser avec Donnarumma le match. C'est que Paris domine ces matchs, mais Paris ne les maîtrise quasiment jamais. C'est différent.
Allez-y, les pronos. Qui veut faire des pronos pour demain?
J'ai déjà dit, moi, du coup.
1-0 Paris à la 85e.
Le match de merde.
Oui. Si, bah, un bon vieux
2-0 Paris sur l'appui.
Je vais rester fidèle à mon 3-1.
Ouais, 2-1 est serré, on va se faire chier les mecs.
Je sais pas si vous remarquez les gens, mais Nix, il a zappé, il était dans un gap de 3 et il est passé dans un gap de 2. Il s'est calmé là.
Non, c'est moi qui ai dit 2-1. C'est lui
bientôt, Nix, il va annoncer soit des 1-0, soit des 2-1.
Ouais, non, c'est moi qui ai annoncé.
Demain, il y a
ces 3 là encore.
Demain, il y a
Demain, il y a Nix, il a annoncé des 4-1, des 3-0, etc. Et là, il est passé au 3-1, 2-0, etc. Petit à petit, ça descend. Fais gaffe.
Basto, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, je disais demain dimanche 13h, il y a le biathlon en même temps, je suis pas sûr que je regarde le PSG.
Bon, passons. On va répondre à quelques questions, il y en aura 6 minutes avant de clôturer le live. Bah, y a la question, je sais pas le mot que Darius utilise tout le temps, la question qui revient tout le temps. J'ai vu le match de la Juventus hier, seriez-vous pour un retour de Rabiot?
Il ne faut pas se remettre avec ses ex.
pas le profil qu'il nous faut.
Yannick, il nous dit 5-0 quand même. Ouais, bah en fait, c'est vrai ça. Ce que nous dit Vincent, j'ai plus peur de la météo et de l'horaire plutôt que de Havre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En plus, c'est toujours les mêmes matchs qui nous mettent à ces heures-là. Je ne sais pas si c'est Brest ou Reims où on va dans un endroit où il y a une tempête et tout ça. Les joueurs, ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent pas rentrer en avion. Ils sont obligés de prendre le bus. C'est un match à 13h encore. Ah, oui. Les endroits où il pleut tout le temps. Là, je crois que c'est Brest.
Mais, oui, c'est pour ça que je vous dis que le match il va être serré. Je vous l'ai dit dès le début. Hein, l'horaire et tout, là, ça va être la merde. Vraiment.
Mais si c'est le gars, vaut mieux jouer l'après-midi que le soir, non?
Alors non, je t'explique pourquoi on le joue à ce moment-là. C'est parce qu'en fait, tout simplement, tu essaies de t'ouvrir au marché chinois pour faire plus de droits télé.
Non, c'est... Mais oui, merci.
Oui, tonton, ça, il le sait, bah, il parlait que
t'es bien. Ah oui, mais pourquoi le PSG joue à cette heure-là?
Oui, mais
pourquoi le PSG joue à cette heure-là? Parce qu'on est l'équipe qui les intéresse le plus, les mecs. C'est pas vrai.
Merci, tonton.
Il te dit pourquoi ce match-là, il rejoue à 13h?
Ils annoncent du soleil à 13, 14, 15 heures demain au Havre et il pleut après. Donc...
Et ça, et en plus, en soi, tu vois, je veux dire, l'organiser l'après-midi plutôt que le soir, c'est plutôt moins risqué. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir, au niveau des inondations, ça ne change rien. Et au niveau de la température, dans cette période de l'année, il y a une grosse diff. Je pense qu'à 13, 14 heures, il fait quoi ? Il va faire au Havre, il va faire 3, 4 degrés. À 21 heures, il fera 0 moins 20. Quoi.
Non, il fera 7 les deux.
C'est pas météo central ici.
Monsieur météo.
Bon, la question préférée de Basto, Youssouf Fofana, vous prenez? Je te laisse répondre.
Je le prends et je l'emmène dans l'avion. Okay. Direction Monaco, il y retourne direct.
Il y a Bradley qui nous parlait de Rabiot aussi. Ok. On a répondu à la question Rabiot. Vous avez d'autres questions, les gars? Quand est-ce que revient Roaren? Début janvier, normalement, si tout se passe bien.
Oh, c'est même sûr, avec, à son âge, tu te remets vite.
J'ai une question à poser à Tonton et Drayas.
Hein? Vas-y.
Est-ce qu'il faut titulariser Asensio demain?
Ah.
C'est trop tôt.
Si. Non. Il faut. Il nous manque des infos, en fait, Basto, pour répondre à cette question. Mais dans l'idée, il a besoin de rythme. Il a fait une très bonne rentrée cette semaine. Là, ce qu'il lui faut, c'est du rythme. Tu sais que tu vas avoir besoin de lui de manière impérative dans quelques jours. Pour moi, c'est sous couvert des. Oui, Anthony, ouais, tout à fait d'accord. Il n'est pas question qu'il fasse le match entier. Mais en tout cas, qu'il fasse le gros du match. Pour moi, c'est un prérequis, en fait.
Ben, pour moi, il a besoin, justement, comme l'a dit Drayas, d'avoir du temps de jeu, de retrouver un peu de la confiance. Tu joues contre le Havre, c'est pas comme si tu lui demandes d'être titulaire contre le Bayern après ne pas avoir joué pendant 6 mois. Donc je pense que justement, c'est par ce genre de match que tu vas l'aider à retrouver un peu justement cette condition. Donc faut prendre le temps de le faire jouer, comme le dit Drayas, je suis d'accord avec lui, hein, pas forcément le match entier, hein, tu peux le faire titulaire et à la 60e, tu fais rentrer un Ramos ou un Ronda à sa place.
Hein. Même 50 ans, hein, voilà. tu peux pas le trouver. Mais,
voilà, non, mais tu juges en fonction de comment il est. Non, mais s'il n'a pas trop couru, tu vois, qu'il n'a pas eu trop le temps de toucher le ballon, tout ça, tu peux le faire aller 60-70. Si au contraire, tu vois qu'il se dépense comme un lapin, oui, tu raccourcis le temps de jeu et t'as juste en fonction. Par contre, le chat, quand je vois les trucs, est-ce que Francky De Jong vous prenez? Est-ce que tu prends Joshua Kimmich aussi? Je te retourne la question. Bien sûr qu'on prend, mais il faut être réaliste, les mecs. Zut! Est-ce que tu prends Erling Haaland? Oui! Est-ce que tu prends Neuer Prime? Aussi!
Francky De Jong, tu prends, mais putain, le mec, il t'a mis une bâche quand même pour commencer. Ça commence pas bien l'histoire, quoi. Tu vois, c'est assez
ça
violent.
Il y a longtemps la prescription. Les mêmes raisons, hein.
Oui, oui.
Voilà.
C'est pas pareil, la bâche qu'on s'est prise là, elle était ouais il va peut-être venir, mais non, en fait il préfère la voisine.
Bon, il y a plusieurs questions. Franck me demande est-ce que j'ai liké. Oui, j'ai liké. D'ailleurs, les gars, il y a 96 likes, on a 4 likes de 200, donc s'il y a 4 personnes qui sont gentilles dans le chat, juste pressez le pouce. Si vous regardez sur la télé, en fait, vous sortez votre téléphone et vous mettez le live aussi sur votre téléphone, vous pressez le like, après vous verrouillez le téléphone et puis vous le remettez dans votre poche, ça prend même pas 2 secondes. D'ailleurs, profitez pour vous abonner, les amis, parce que vous pensez que ça sert à rien, mais ça nous aide beaucoup. Ça nous aide énormément. Et Du coup, vous voyez, quand il y a des gens qui veulent travailler avec nous, ils disent, bon, vas-y, eux, ils n'ont que 10 000 abonnés. Donc, faites-nous monter, s'il vous plaît.
Petit big up à Deezer. Spotify.
Apple Music.
Ah oui. Ah oui, ceux qui nous écoutent sur Spotify, Apple Podcast. À chaque fois je dis, je le dis en début, à chaque fois je le dis à la fin, je suis désolé les gars. Mais abonnez-vous et merci de nous écouter. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci, ça fait super plaisir. Il y avait encore quelques questions. Il y a une question qui me plaît. C'est vous préférez Lenny Yoro ou Todibo? Moi, ça fait des années que je veux Todibo au PSG. Je ne connais pas assez Lenny Yoro pour le préférer à Todibo. Moi, je préfère
communautarisme. Tout ça parce qu'il est antillais. Bravo, Lenny. Bravo.
Non, écoute, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Todibo, en fait, il me fait penser un peu à Marquis, mais en plus fort. C'est le mec où, en 1 contre 1, tu peux quasiment pas le passer. En plus de ça, il a le côté duel aérien où il est bon.
Alors que Yoro, c'est un pitre dans les airs et il est petit de taille.
Mais je ne connais pas.
Tu as bien ramené Colo, tu me laisses Yoro.
Non, voilà. Todibo, c'est le gars sûr. Et vous vous rappelez qu'est-ce que Kylian Mbappé il a dit? Il a dit de ce joueur que j'arrive pas à passer, c'est Jean-Claude Todibo.
Que Mohamed Simakan l'a mis dans sa poche hein, tout un match. Stanisic aussi, il les a pas cités. Hein. On les recrute.
Oui, je pense que Todibo le met dans sa poche à chaque fois. Il n'y a pas un match Stanisic où il a joué.
Et Simakan,
il a joué une fois contre Stanisic.
Deux.
Ah non, il a joué 20 minutes et 90 minutes.
Non, contre la Croatie et contre le Bayern. Et les deux fois, il s'est fait pocket. Est-ce qu'on recrute Stanisic, du coup?
Non, on recrute Todibo.
Bah voilà, ouais. Donc pourquoi on recruterait Todibo pour les mêmes raisons? Voilà, bah Guyane, c'est quoi?
C'est pas les anciens, j'en dirais.
Je sais frère, pas. C'est bon, c'est compris quand j'ai dit ça. Frère, il n'est pas africain, il n'est pas asiatique non plus, on va arrêter. Mais non, je préfère les Nioro en ce qui me concerne. Mais après, je ne veux pas entendre ceux qui veulent de Todibo. Mais Nix, on sait très bien pourquoi il le veut.
Nix, il a une question.
Et le projet studio, ça dit quoi? Bah, continuez à faire des dons, les gars. On a deux micros, il en manque encore deux, et après, c'est bon, donc faites des dons.
Et après, il y a l'inévitable question.
Parce que je ne suis pas réveillé, c'est pour ça.
Il y a l'inévitable question, l'IVS Vitinha, mais on en a tellement parlé.
Et puis,
je veux dire, c'est ce genre de questions que c'est un petit peu dur de les aborder avec Nix. Il serait encore obligé de reconnaître qu'il a tort et tout le bordel, c'est compliqué la
sur
vie.
Sur l'IVS Vitinha où est-ce que j'ai tort sur Lee Vitinha? Lee, on l'a mis, il a très peu joué. On l'a mis côté gauche, alors que c'est un joueur qui est meilleur côté droit. Donc, en fait.
Il a joué à gauche, mais pas tout le long.
Il a joué à gauche tout le long, mais c'est un joueur qui est mieux à droite.
Mais il a joué à droite la deuxième partie du match, il l'a encore moins vu que quand il était à gauche.
En fait, il peut jouer à gauche ou à droite en Ligue 1, mais dès que tu as de l'intensité, il vole. C'est un poids plume. C'est une.
D'accord, qu'elle passe vers l'avant. Qu'elle passe vers l'avant que Vitinha il a fait dans le match face à Newcastle.
Mais on est d'accord sur un truc, c'est que Vitinha, il est bon, c'est un bon sub.
Mais il joue
Alors peut-être qu'il deviendra un jour un. Mais à l'heure actuelle, Vitinha, à chaque fois qu'il fait des rentrées en cours de match, il fait des matchs fabuleux.
Mais c'est ce que je dis, c'est que l'Europe.
Laisse-moi finir. À chaque fois, il fait des matchs fabuleux. La problématique de Lee, il est toujours très bon. Sauf qu'en face, dès qu'il y a des mecs un peu physiques, et moi, pour moi, il y a une image qui est notable sur Lee qui dit tout. C'est l'image quand il sort. On jouait contre qui en Europe? J'ai oublié.
Newcastle.
On est joué contre Newcastle. Voilà, quand il sort contre Newcastle à la 65e et des brouettes, ça je m'en souviens très bien. T'as un gros plan sur lui sur le banc. Il est rouge, à court de souffle, en train de boire et limite pas réussir à boire. C'est-à-dire qu'il s'est donné à fond. Il a couru dans tous les sens et tu l'as pas vu une seule fois du match. Ça en dit long. Sur ce joueur. C'est un joueur qui est généreux. C'est dès qu'il ne va pas y avoir d'intensité physique, eh ben il va surnager parce que avec sa générosité. Mais dès qu'en face, il va se retrouver un peu avec des goalbots, ben il n'existe plus.
Nix posait une question sur Lee fait plus de passes vers l'avant. Dis-toi que Vitinha est dans le top 66% des passes progressives. Lee n'est que dans le top 39%. Donc Vitinha le flingue dans ce domaine.
Mais il faut reconnaître que Viti, quand il commence en début de match, il est trop timoré, il est trop timide, il n'ose pas y aller. Et c'est le jour et la nuit avec les périodes où il rentre. Mais
garde-le.
On est d'accord sur un truc, c'est qu'en soi, Vitinha n'est pas la réponse idoine pour l'instant, mais Lee non plus.
Alors les gars, je ne dis pas que Lee, c'est mon chouchou. Hein. Moi, ce que je dis, c'est que Vitinha n'est pas titulaire au Paris Saint-Germain. Moi, je suis ouvert à toute autre alternative. Je dis juste que Vitinha, en fait, je vais vous expliquer quelque chose. Lee ne me donne pas autant envie de vomir quand je regarde un match football que Vitinha.
Ah, mais comment t'exagères sur les mots, quoi.
Non, je vous jure.
Alors que Randall, t'es en érection quand tu le vois, frangin.
Non. Bah oui, c'est ça, Randall, il est en érection, c'est contrôle orienté en touche.
La cohérence, quoi. La cohérence, mais laisse tomber.
C'est pas ça. Randall, il a des défauts techniques. C'est-à-dire qu'il va me faire chier parce qu'il va rater vers les contrôles, il va rater ses passes. Vitinha, c'est encore pire. Parce que moi, j'ai joué au foot, et en fait, quand je regarde les matchs du Paris Saint-Germain, genre limite, je me vois sur le terrain. Et quand je vois les choix que Vitinha, il fait, ça m'énerve encore plus. Parce que en fait, Colomwani, il n'y arrive pas techniquement. Mais il veut faire quelque chose. Vitinha, en fait, il n'a pas envie de faire la chose qu'il doit faire. C'est ça qui m'énerve, en fait. Tactiquement, il y a Mbappé qui lui donne le ballon pour faire une deux, pour jouer rapidement. Il lui donne la balle, il va en profondeur. Il fait quoi? Il fait une roulette, il regarde de derrière, à gauche, il y a qui? Et il fait une vieille passe latérale, une vieille passe défensive. Tout le temps, il fait ça. Il y a des contre-attaques, il joue derrière, il fait des passes latérales. Moi, c'est les trucs qui m'énervent le plus dans le football. Donc, moi, je ne peux pas le voir, ce joueur. Je suis désolé.
Mais sauf que dans les faits, quand tu le fais rentrer en cours de match, ça, il le fait pas du tout. Et il est même très, très bon. Et il l'a montré. Il l'a montré, entre autres, pas plus tard que mercredi. Et puis, pas plus tard que les autres matchs qu'il a fait précédemment, où à chaque fois, effectivement, et je suis d'accord avec toi, quand il rentre en début de match, je suis pas tout à fait d'accord avec Bastos là-dessus, il est trop timoré. Il y a quelque chose qui s'est bloqué dans sa tête. Il n'a pas commencé comme ça. Il n'a pas commencé comme ça en début de saison dernière. Peut-être qu'on lui a mis trop de pression. Tout à coup, il s'est retrouvé. Alléluia, on a trouvé la solution. On a enfin trouvé la solution depuis que Mota est parti. Et peut-être que ça a mis trop de pression sur le joueur et que ça l'a complètement écrasé. Peut-être que c'est sa personnalité, qu'il est trop timide ou je sais pas. Mais dans les faits, une fois que le match est lancé et que le mec y rentre, tout ce que tu viens de décrire, tu le vois plus du tout. Le mec, il fait des passes vers l'avant, le mec, il tente des tirs au but, le mec, il tente des décalages et il les tente tous. Et le truc, si tu veux, c'est que tu peux pas, si tu veux, le comparer avec Lee. Lee, bien sûr, dans un match de Ligue 1, typiquement contre Le Havre, Lee va te faire un bien fou et il faut l'utiliser. Mais Lee, à chaque fois que tu le vois, que les mecs font ne serait-ce que 10 cm de plus, que les mecs ont un tout petit peu plus de muscles et que les mecs mettent un petit peu plus d'intensité, ben le mec, il est carbo sans avoir touché le ballon. Donc, il rentre même pas dans le débat, en fait.
Tu es parti dans un deuxième podcast.
Je sais pas si tu as la stat, parce que toi qui es dans les stats, le nombre de ballons perdus de Lee face à Newcastle, il en a perdu beaucoup. Mais à chaque fois, genre, on se prenait des contres. Mais genre, en fait, ouais, ça me dégoûtait pas parce qu'en fait, il tentait des passes qui, s'y arrivaient, changeaient quelque chose. Genre, moi, j'aime pas les joueurs qui ont peur. Tu perds le ballon, en fait. C'est pas grave, c'est le football.
Il a touché 4 ballons en première mi-temps.
Non.
Ah bah, si tu me demandais de regarder les stats, j'ai regardé. Il a touché 4 ballons en première mi-temps.
Moi, j'ai un souvenir au moins 2 ou 3 fois où il rate une passe et on se prend une contre-attaque derrière.
Non, mais le souci contre Newcastle, et tu vois, regarde, c'est que dès que tu faisais la passe à Lee, et que tu avais toujours un mec qui venait presser sur lui, il la perdait systématiquement. Il a pas cette avance physique. Il vole un peu dans des matchs à haute intensité dès qu'il est titulaire. Et déjà, on l'avait vu en Ligue 1 sur certains matchs. Dès qu'il a pas un peu de temps d'espace, c'est fini. Il est trop léger pour le moment.
Bah, du coup, on n'a pas répondu à la question, Brad. Il y en a qui mettent Lee. Non,
c'était ça la question intéressante aussi.
Ah, non, il n'y a pas une cagnotte, Litchi. Il y a GoFundMe, c'est dans la description de la vidéo YouTube. Il y a un lien, vous pouvez nous aider pour le studio. Lee en 10, vous verrez, nous dit Anthony.
Il sera mieux utilisé.
C'est pareil, il y a Sky qui dit il était le seul à faire des efforts. Mais oui, mais je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas qu'il n'est pas méritant. Je dis juste qu'il a pas le... Et c'est même pas un terme de niveau football. C'est encore une fois, revoyez l'image où il est carbo sur le banc et le match qu'il fait. Il y a les deux images, elles ne vont pas ensemble, quoi.
Mais c'est surtout que quand on joue trop bas,
Vitinha joue trop haut. Hein ?
Quand on joue trop bas et Vitinha joue trop haut. Pour moi, Vitinha...
Absolument.
C'est un 8. Et Kang, on lui demande d'être... C'est un meneur de jeu plutôt excentré quand il jouait à Majorque. C'était un milieu gauche, très dribbleur. Et là, on lui demande d'être milieu. Donc, en fait, le problème aussi avec les deux joueurs, parce qu'il faut arrêter de descendre l'un pour défendre l'autre. Il faut dire ce qui est sur les deux. Moi, j'aime les deux, d'ailleurs, hein, donc ça ne me posera pas de problème de le faire. En fait, moi, dans mon esprit, Vitinha, il est un peu comme un Bernardo Silva quand il arrive à Manchester City. C'est-à-dire qu'il est censé être un remplaçant qui va se développer pour devenir à terme un titulaire. Et quand je vois Kang, bah, c'est le même profil. C'est un jeune joueur à fort potentiel qui est censé être un remplaçant, mais on le fait jouer plus bas que ce qu'il joue réellement. Et Vitinha, à l'inverse, on lui demande d'être plus offensif que ce qu'il est réellement. Donc voilà, si tu utilises mal les deux joueurs.
Le problème, c'est Luis Enrique comme pour les neuf.
Non, mais si tu utilises mal les deux joueurs, mais c'est pas qu'une histoire de Luis Enrique, c'est qu'à un moment, bah écoute, Luis Enrique, qui est un adepte du milieu, t'imagines quand il était au Barça, le mitard qu'il avait, t'imagines quand il était en Espagne, le mitard qu'il avait. Imagine quand il est en France.
Il a validé Moscardo, donc après.
Non, mais est-ce que tu compares ses numéros 6 d'aujourd'hui à ceux qu'il a eu au
Paraguay? Il valide Moscardo. Il valide Moscardo lui-même.
Mais qui dit qu'il le valide?
Il vient de parler derrière.
Qui dit qu'il le valide?
Bah, qu'en pense, mais après, que Enrique a dit, je suis d'accord. Mais dans ces cas-là, tu viens pas si tu es d'accord avec des joueurs.
Ouais, mais la presse avait dit que Luis Enrique, il avait validé beaucoup de joueurs cet été. Et au final, quand tu vois qu'il fait jouer, tu te dis, à mon avis, c'est pas lui qui les a validés.
Tu regardes les styles de jeu. Tu regardes et les Anthony, styles de jeu à un moment. Est-ce que Luis Enrique aurait recruté Skriniar?
Il n'a jamais dit non à un joueur dans n'importe
quel club. Et Anthony, il y a d'autres joueurs qui ont joué à ce poste et ils n'ont pas fini Carbo. Enfin, voilà. Mais c'est pas le truc, voilà, c'est vous êtes tous en défense parce que vous avez l'impression que Lee est accusé. C'est pas une accusation de Lee, c'est juste est-ce que on a un milieu qui est suffisant par rapport aux joutes qui nous attendent, et est-ce que les réponses, surtout avec un Warren Zaïre-Emery qui pour l'instant est sur le flanc, est-ce qu'on a les réponses? Et pour l'instant, les réponses qu'on essaye, eh ben elles suffisent pas. Tu vois, tu peux aimer Lee, tu peux avoir envie de le défendre, mais le match qu'il fait contre Newcastle. Le match qu'il fait contre Newcastle, et c'est pas suffisant, même si tu peux essayer de justifier ça par Mbappé, c'est juste pas suffisant, c'est complètement insuffisant. Là où je rejoins Nick, c'est que si tu commences le match avec Vitinha, et Tonton a raison sur l'exploitation au niveau de la hauteur dans l'idéal, mais pourquoi est-ce qu'on joue avec Vitinha? Après, le truc, c'est que si vous voulez, si on peut revenir au 4-2-4 avec 4 vrais attaquants, pour voir le match de Newcastle à l'aller, ça, c'est pas la fête du slip, hein, le 4-2-4 où t'as pas un milieu qui est excentré, qui sert de contrepoint. Mais voilà, effectivement, Vitinha joue peut-être trop, mais indépendamment de ça, bah, t'as un Vitinha qui, quand il rentre en fin de match, il répond présent, mais effectivement, en début de match, c'est pas une réponse aussi. Et on n'est pas dans le truc de taper sur un joueur par rapport à un autre, on est juste en train d'essayer de... Alors bien sûr, après, il y a les trolls par rapport à Nyx, parce que Nyx aime bien avoir tort, et donc on aime bien lui rappeler petit à petit qu'il a tort, etc., etc. Ça fait partie du jeu, ça fait partie en fait du petit mix Paris Central. Si vous êtes un peu nouveau, vous y habituerez, il n'y a pas de souci. Mais indépendamment de ça, c'est tout simplement constater que putain, ce milieu, t'as des trucs qui vont mieux dans l'équipe cette saison, mais il y a ce milieu qui... Et c'est les frustrations qui parlent. Et en effet, après, on peut être fan de Lee, mais Lee, je suis désolé, par rapport aux joutes européennes, physiquement, il n'a pas le niveau. Il n'a juste pas le niveau.
Bon, les gars, il y a trois questions. Après, on va laisser Basto conclure parce qu'il avait envie de faire... une déclaration à notre coach, on va le laisser s'exprimer un petit peu, parce qu'il voulait aborder une question dans le live, je ne l'ai pas mis, parce que je trouvais qu'elle était dure, mais bon, on va lui laisser son moment, il va le faire tout seul, comme ça, il sera content. Vincent qui nous dit, Ugarte toujours titulaire indiscutable pour vous.
Mm-hmm. Bah, dans son profil, il est seul, en fait. Je veux dire, j'ai eu ce débat 30 fois avec Dryas. Le problème, c'est que Ugarte, défensivement, dans le placement et dans le jeu sans ballon, il est un 6 comme peut demander Luis Enrique, sauf que techniquement, ce n'est pas le cas. Et de l'autre côté, tu tentes le remplacement avec Fabian Ruiz, qui, lui, techniquement, a ce qu'il faut pour jouer 6 sous Luis Enrique, mais n'a pas tous les autres aspects du jeu dont dispose Ugarte. Donc, dans la logique, pour moi, et tu ne peux pas le faire, tu prends les deux, genre tu les fusionnes, et là, tu as le 6 que veut Luis Enrique, sauf que tu ne peux pas le faire. Donc, soit tu joues avec les deux en même temps, pour le moment, et c'est ce qu'il a fait contre Newcastle, soit va falloir trouver peut-être un 6 qui techniquement répond un peu plus à ce que demande Luis Enrique, parce que je n'ai rien contre Ugarte, je tiens à le dire tout de suite avant qu'on m'attaque, mais quand tu passes de Sergio Busquets et Rodri en 6 à Ugarte, techniquement, il faut se mouiller la nuque. C'est pas le même
profil. Je m'attendais à ce que tu nous parles de Nagelsmann, là, sur une question comme ça.
Non, même pas, parce qu'on ne l'a pas, ce coach, donc je n'ai pas
le
droit de parler.
Mais pour le coup, avec ce joueur, ça aurait très bien marché.
Bah, avec Nagelsmann, oui, mais là, on est sur Luis Enrique, c'est lui notre coach. Je ne vais pas aller dans le fantasme de Nagelsmann coach, parce qu'on a raté cette solution et elle ne se représentera jamais, et c'est bien fait pour nous. Mais pour Luis Enrique, lui, il a besoin d'un 6 technique, il a eu Busquets, il a eu Rodri, et là, on lui donne Ugarte. Donc forcément, ce n'est pas le même profil. Et d'où le fait que moi, de ce que
ça,
j'en pense...
Pour Basto, ça.
Je te dis pas en mode Moscardo, il ne faut pas le signer, je le déteste déjà, alors que je ne connais même pas ce joueur, je serais de très très mauvaise foi. Mais moi, c'est peut-être pour ça que j'ai plus envie, je sais pas, d'un Jorginho, d'un Zubimendi, d'un Brozovic en 6, un joueur qui, techniquement, répondra à ce que veut Luis Enrique à ce poste.
Ok. Lucas, pour te répondre, on a répondu à la question tout à l'heure. Contre Dortmund, il y a peut-être Basto et moi, on est pour, et Dreyas et Tonton sont plus Colomoigny. Ok. Ouais. Basto, je te laisse ta tribune pour terminer. Basto voulait absolument qu'on se dise est-ce que on n'est pas trop gentil avec Luis Enrique. Donc vas-y, fais-toi plaisir, Basto.
Dans ton plus bel espagnol, on t'écoute.
Tu prends un peu au dépourvu. Moi, j'ai juste dit que ça pouvait être un sujet. Est-ce que l'immunité qu'a Enrique est-elle méritée? Il faut constater que pour le moment, Enrique est plutôt protégé par les médias, ce qui est bien, ça. Tu le laisses travailler un coach, c'est plutôt bien. Mais chez les supporters, certains, comme si on ne peut pas le critiquer. Il y a des coachs comme Pochettino ou Emery qu'on ne pouvait pas défendre sans se prendre de la meute, etc. Là, on ne se prend pas de meute quand on critique Enrique, mais cette fois-ci, on ne peut pas critiquer un coach et ça, c'est nouveau. D'habitude, il y a des coachs qu'on ne peut pas défendre.
Je me permets juste d'interrompre parce que si vous n'avez pas vu ce short, allez le voir. Entre autres, hein, si jamais tu critiques Ali, tu te retrouves avec le caleçon de casse sur la tête. Je te laisse continuer. Vas-y.
Merci pour cette intervention.
Ça m'a posé une question intéressante.
Et donc, Enrique, j'ai même vu des gens dire que tactiquement, il n'avait pas été dominé mercredi. Alors, pendant 55-60 minutes, pour moi, c'est Eddie Howe et Newcastle qui l'amènent où ils veulent nous amener. Même si Newcastle défend, Newcastle ne presse pas, c'était volontaire. Et pendant 60 minutes, ça marche plutôt. Alors, les gens disent, comment tu peux dire que Enrique tactiquement a été dominé alors qu'on a 35 frappes et qu'ils ont deux? Oui, mais bon, c'est pas que ça. Sur les choix de départ, c'est trois choix forts, Danilo, Lee et Colo, c'est trois choix qui ratent encore. Pour le moment, les choix qu'il fait ne marchent pas. Pour le moment, en Ligue des Champions, le PSG n'a aucune maîtrise. On a Enrique qui semble perdu, mais par contre, tout va bien. Bon, bah, on ira en Europa, bah, ce ne sera pas la faute d'Enrique. Enrique, ça va être le dernier à attaquer. Alors, je suis pour, évidemment, le virer si on est éliminé de la Ligue des Champions. Le virer si on est éliminé de la Ligue des Champions, etc. Évidemment qu'il faut lui laisser du temps, mais on a aussi le droit de critiquer. Et j'ai l'impression qu'on a pas forcément pour certains, on n'a pas forcément ce droit. Et je revendique ce droit de critiquer.
Je vais appuyer vite fait ce que dit Basto, c'est vrai, et c'est pareil pour les joueurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez du débat autour de Soler. Putain, moi, j'en suis passé pour un Soler lover, tout ça, parce que j'étais en train de défendre qu'il était capable de faire des bonnes performances, notamment en Espagne, et qu'il en faisait des bonnes à Valence, etc. etc. Et j'ai pris, et c'est ce que tu nommes, Basto, en fait, c'est la problématique de la lecture unique. Et typiquement, il y a un joueur hein, sur lequel il est très difficile d'ouvrir un dossier, mais peut-être qu'il va falloir en ouvrir un. C'est Donnarumma. On avait entre autres annoncé si jamais il fait encore une boulette, bah peut-être qu'il faudrait l'ouvrir. Mais c'est pareil, il y a des immunités comme ça qui se créent, et c'est très difficile d'en parler. C'est très 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 difficile d'en parler, et ce que dit Basto est très très juste. Et dès que tu essaies de dire du bien, dès que tu essaies de dire de bien de quelqu'un où il y a le consensus. Et d'accord, pour en dire du mal, bah t'es trop vite la dernière des merdes, et vice versa, et c'est un petit peu fatigant, et ce serait bien qu'il y ait un petit peu plus de mesure dans les points de vue.
Ok, bah écoutez les amis, merci de nous avoir suivis, s'il vous plaît, rendez-nous service, abonnez-vous, c'est important, likez, et en retour, je vous promets de faire en sorte que le podcast soit de mieux en mieux avec des meilleurs invités. Donc, c'est le deal qu'on va faire aujourd'hui. Likez, abonnez-vous et on va vous ramener des gens. On va vous ramener des Luis Fernandez, des je ne sais pas qui vous voulez. Mais donnez-nous de la crédibilité. Il faut qu'on ait un certain nombre d'abonnés pour dire que le mec, il se dise, vas-y, il y a des gens qui vont regarder. Je ne vais pas faire une interview pour qu'il y ait 10 têtes. Donc, likez, abonnez-vous. Mais t'inquiète, on a ramené Riolo, ça y est.
On l'a eu la semaine dernière.
C'est crossé.
Vous vous abonnez, Raya s'est viré.
Mais j'ai liké, Franck. Moi, j'ai déjà liké. Je sais pas de quoi tu parles.
On va passer à 20K, c'est enculé.
Donc, abonnez-vous. Même si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, abonnez-vous sur la plateforme sur laquelle vous utilisez. On est une équipe, les gars. On est l'équipe Central. On est tous ensemble. Abonnez-vous. On va faire des trucs style ensemble. Faites ce qu'il faut. Nous, on fait le taf. On vous donne du contenu tout le temps. Si vous en avez encore plus, qu'on développe l'équipe, etc., il faut nous aider. Comme ça, on vous met plus de contenu, plus de shorts, plus de vidéos, plus de lives, plus que tout ce que vous voulez. On le fera. Sur ce, je vous souhaite un bon samedi. Demain, il y a match. Donc, profitez du match. Si j'ai le temps, peut-être on fera un live match. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura le débrief à 15h05. Donc, ne ratez pas le débrief. Et n'oubliez pas que ici, c'est Paris. Ciao.